Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal de Nu Info. Au menu de ce journal, les réfugiés syriens continuent d'arriver en Irak. L'aide alimentaire a du mal à atteindre la population au Yémen. Le Sénégal plaide pour un Conseil des droits de l'homme plus proactif et novateur. Et en dossier, nous nous intéresserons au rapport entre culture, espace public et droits de l'homme. Le flux de réfugiés syriens en Irak continue, a indiqué mardi le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 7000 Syriens ont trouvé refuge sur le territoire irakien en une semaine. Ces réfugiés ont fui les hostilités qui ont commencé après le début de l'opération turque dans le nord-est de la Syrie. Plus de précisions avec Andrej Maïsik, porte-parole du HCR.
Les équipes de l'agence de l'ONU pour les réfugiés rapportent qu'à ce jour, plus de 7100 Syriens sont arrivés en Irak depuis lundi dernier. La plupart d'entre eux, un peu moins de 7000, sont hébergés dans le camp de réfugiés de Bardarache, à près de 140 km à l'est de la frontière syro-irakienne. La plupart des réfugiés syriens viennent de villes et de villages du nord-est de la Syrie. 3 sur 4 sont des femmes et des enfants. Parmi ces nouveaux réfugiés figurent aussi des enfants non accompagnés. Certains réfugiés, en particulier les enfants, ont besoin de premières soins et d'une prise en charge psychosociale alors qu'ils fuient dans la peur au milieu des combats. Certains ont été témoins d'explosions et de bombardements. Les réfugiés dont les parents vivent dans la région sont autorisés à quitter le camp et à rejoindre leur famille. Avant cette dernière vague d'arrivée, près de 228 000 réfugiés syriens ont trouvé refuge en Irak fuyant leur pays après plus de 8 années de conflits et de destruction en Syrie.
Au Yémen, la population continue de souffrir durement du conflit qui ravage ce pays et l'accès à l'assistance humanitaire reste difficile. Il y a quelques jours, le Programme alimentaire mondial est parvenu à fournir une aide à des familles piégées par les combats dans la ville de Douraïmi. C'est seulement la deuxième fois en plus d'un an que le PAM a réussi à le faire. Jérôme Bernard nous en dit plus.
La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial et d'autres agences des Nations Unies ont distribué de la nourriture ainsi que des compléments alimentaires, de l'eau, des médicaments et des trousses d'hygiène aux personnes dans le besoin dans la ville de Douraïmi. La chef adjointe du PAM au Yémen, Ali Raza Qureshi, qui a dirigé la mission, a expliqué que lorsque leur convoi est arrivé à Douraïmi, de nombreuses personnes étaient en colère parce qu'elles attendaient cette assistance depuis trop longtemps. Elle s'est d'accord avec elle et estime qu'il est totalement inacceptable que ces civils ne puissent pas sortir en toute sécurité et que la communauté humanitaire ait tant de mal à les atteindre. Alors que la plupart des habitants de la ville ont fui, quelques 200 civils y demeurent et sont maintenant très vulnérables, d'autant que les combats font rage autour d'eux. Il n'y a pas d'établissement sanitaire fonctionnel. Selon le Programme alimentaire mondial, les magasins sont vides et trouver à manger relève du parcours du combattant. Face à une telle détresse, le PAM demande à toutes les parties au conflit à veiller à ce que les civils puissent entrer et sortir en toute sécurité de Douraïmi. La situation au Yémen reste la crise humanitaire la plus complexe et la plus difficile au monde. Selon le PAM, plus de 20 millions de Yéménites ont faim et la moitié d'entre eux sont confrontés à de graves pénuries alimentaires.
Un Conseil des droits de l'homme plus proactif, plus novateur et plus anticipateur afin qu'il soit plus efficace. C'est le plaidoyer qu'a livré le ministre des Affaires étrangères du Sénégal devant les membres du Conseil réunis cette semaine à Dakar. On écoute Amadou Ba, le chef de la diplomatie sénégalaise.
Les défis sécuritaires induits par les conséquences désastreuses des violations des droits de l'homme liées à l'environnement et au changement climatique, aux migrations de masse, aux inégalités croissantes de revenus et de richesses, ainsi qu'aux technologies nouvelles et émergentes, exige des actions urgentes, concrètes et coordonnées. Dans ce cadre, la responsabilité du Conseil des droits de l'homme, organe qui incarne le troisième pilier des Nations Unies pour mener de telles actions, est une évidence. Il est essentiel de renforcer les capacités d'anticipation et d'alerte précoce du Conseil pour rendre ses actions de prévention plus efficaces. Le Conseil des droits de l'homme doit se montrer plus proactif et novateur dans la prise en charge de telles thématiques. Au-delà de la prévention, le Conseil des droits de l'homme doit se donner les moyens d'une mise en œuvre effective des résolutions qu'il adopte, s'assurer ou, du moins, évaluer leur impact au niveau national, sous-régional et régional.
La vie culturelle prend forme, se développe et s'exprime dans les espaces publics, et ces derniers sont nécessaires pour l'exercice de nombreux droits humains. C'est ce qu'indique la rapporteure spéciale de l'ONU dans le domaine des droits culturels, Karima Benoun. Dans son nouveau rapport présenté mardi à l'Assemblée générale des Nations Unies, Karima Benoun explique les difficultés qui doivent être surmontées afin que tout le monde puisse avoir accès à ces espaces. On l'écoute au micro de Florence Westergaard.
Le droit de participer à la vie culturelle sans aucune discrimination et les libertés d'expression artistique et de création, de même que les droits culturels des personnes appartenant à certains groupes souvent marginalisés, tels que les femmes et les personnes en situation de handicap, ne peuvent être réalisés dans l'absence d'espaces publics adéquats ou sans des accès égaux pour tous à ces espaces. Les droits culturels impliquent aussi la possibilité de participer au processus de décision lié au développement et à la gestion des espaces publics, comme des espaces d'expression à la vie culturelle. De plus, l'objectif 11,7 de l'agenda de développement durable 2030 affirme l'importance d'assurer l'accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs. Mon rapport insiste sur les responsabilités des États et le rôle de tous les acteurs pour assurer que les espaces publics sont et demeurent des sphères de délibération, d'échange et de jouissance des droits humains universels.
Donc, quels sont justement les obstacles qu'il faut surmonter de nos jours pour que la population puisse avoir accès aux espaces et en bénéficier?
Les obstacles à des espaces publics inclusifs incluent souvent, premièrement, des politiques publiques, des normes sociales ou des pratiques exclusivistes. Deuxièmement, le manque d'informations par rapport aux lieux publics existants et à leur utilisation. Troisièmement, les risques de menaces, violences ou harcèlement dans les espaces publics. Dans mon rapport, je considère aussi la manière dont l'architecture des espaces publics peuvent contribuer à rendre ces espaces accueillants ou non pour une diversité de personnes et de pratiques, de même que les divers éléments historiques, mémoriaux et symboliques qui peuvent avoir un impact sur qui se sent légitime pour investir les espaces publics et qui, au contraire, peut s'en sentir exclu.
Et comment peut-on s'assurer que ces espaces restent une sphère de délibération, d'échange, de cohésion sociale sans discrimination?
D'une part, il faut que les espaces publics soient sûrs pour que chacun puisse les utiliser. Il est également important d'assurer qu'une diversité de points de vue, événements et manifestations puissent se dérouler dans les espaces publics afin de permettre un contact avec les idées et pratiques différentes et une rencontre entre les personnes qui contribuent à la cohésion sociale. Par ailleurs, les œuvres d'art présentées dans les espaces publics représentent des apports significatifs au paysage culturel qui contribuent à la rencontre et au débat sur la société. Il est donc important que les autorités publiques promeuvent la présence de l'art dans les espaces publics qui contribuent au droit d'avoir accès à une vaste palette de moyens d'expression artistique et consultent les populations locales lors des processus décisionnels concernant les œuvres à proposer.
Pourquoi la pleine participation des femmes doit être encouragée dans les espaces publics et comment?
Dans la pratique, les femmes ont souvent des obstacles considérables à accéder aux espaces publics en raison des risques pour leur sécurité et des normes sociales et culturelles. Elles sont parfois complètement exclues d'espaces de vie culturelle tels que les stades, les salles de concert mixtes, les cafés, les lieux de culte ou les sites patrimoniaux, en effraction du droit international des droits humains. Assurer la pleine participation des femmes aux espaces publics est une garantie importante de diversité culturelle. De plus, impliquer les femmes et une perspective sensible au genre dans l'aménagement, la conception et la gestion même des espaces publics est une garantie que les espaces seront plus inclusifs puisque certains préjugés, conscients ou inconscients, seront déconstruits.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.